Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans l'immobilier, peut-être. Nous allons décortiquer une note de la Banque de France qui s'est penchée sur l'endettement immobilier des ménages français. Quel est le problème ? Réponse de vous, Frédéric Lorenzini, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur de Deep Darsana avec nous pour réfléchir sur cette dette immobilière, on pourrait presque l'appeler. Racontez-nous rapidement.
La Banque de France, vous l'avez dit, a publié la semaine dernière, donc c'est tout chaud, une note, qui étudie l'évolution de la dette immobilière. Hein, pas de la dette en général, de la dette immobilière en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. C'est intéressant de mettre en perspective dans le temps, mais aussi par rapport à nos voisins, parce qu'on voit des choses. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le poids de cette dette a augmenté, particulièrement en France. Entre 2017 et 2021, donc sur 4 ans, hein, c'est assez rapide, il a augmenté. Alors, pas de façon égale chez tous les ménages. On parle de percentile, le percentile 90 à 95, c'est les ménages. C'est pas les plus aisés, mais c'est sur le haut, entre guillemets, du panier. Ben, cette dette, elle a littéralement explosé, elle a augmenté de 33%. Ça, c'est beaucoup. Alors, les évolutions, elles sont contrastées selon les pays. Et en France, ça a littéralement explosé. Donc, ça pose plein de questions.
Est-ce que c'est un problème français, franco-français ?
Alors, c'est un problème assez franco-français. C'est un problème pour les particuliers. C'est aussi un problème pour les entreprises. Pourquoi c'est un problème franco-français ? Parce que le poids de la dette, le ratio dette-revenu, hein, vous avez une dette, vous portez une dette, vous avez des revenus, ce ratio dette-revenu, il s'est dégradé en France. Alors, vous allez me dire, c'est léger. Entre 2017 et 2021, on est passé de 0,64 à 0,83. Mmh. Okay ? Donc, c'est pas énorme, mais quand même, ça s'est dégradé. Alors que dans le même temps, en Allemagne et en Espagne, ce ratio, il s'est amélioré, il est stable en Italie. Donc, question, pourquoi ça se dégrade en France alors que ça s'améliore sur les économies ?
Pourquoi la solvabilité des Français est moins bonne ?
Alors, voilà, ça pose la question de la solvabilité du marché, des ménages. Que se passe-t-il si le ralentissement économique se poursuit ? Que se passe-t-il si le chômage augmente ? Si les taux restent durablement élevés, est-ce que le poids de cette dette immobilière des ménages en France ne risque pas d'exploser, de devenir insupportable.
Pardon Frédéric, est-ce que je peux prendre le contre-pied ? Est-ce que c'est si inquiétant d'être endetté ? Je ne crois pas.
Est-ce que c'est si inquiétant d'être endetté ? C'est toujours une notion relative, il faut être dans une vision dynamique des choses. Si vous avez moyen de rembourser votre dette, c'est plutôt bien d'être endetté. Alors, le problème, c'est qu'on a les chiffres jusqu'en 2021. Il y a eu 2022, il y a eu 2023. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu la remontée des taux. Alors, un autre chiffre qui est intéressant quand même concernant la dette immobilière en France, on a vu le ratio dette sur revenu. Il y a aussi un autre ratio qui est le ratio service de la dette sur le revenu. Service de la dette, c'est ce que vous payez tous les mois régulièrement pour rembourser. Ce service de la dette, alors là aussi, légère détérioration, on est passé de 0,17 à 0,19, on a perdu 2 points de base, c'est pas énorme. Mais là encore, quand on met en perspective par rapport à nos voisins allemands ou nos voisins espagnols, dans le même temps, chez les Allemands et chez les Espagnols, ça s'est amélioré. Donc là aussi, on se dit, pourquoi ? Alors, attention, c'est inquiétant, pourquoi ? Parce que les ménages qui sont endettés en taux variable avec la hausse des taux, c'est pas une bonne chose.
Alors, les taux variables, il faut dire que c'est la norme là-bas. C'est la norme en dehors de Chine ou pas ?
Absolument. On a des chiffres jusqu'en 2021. On n'a pas encore les chiffres sur le nouveau stock depuis la hausse des taux. Et puis, il y a une question, c'est quid de la valorisation de l'immobilier résidentiel ? Alors, je vais faire le vieux boomer, si vous le permettez. Entre 1990 et 1994, en Île-de-France, l'immobilier résidentiel a en moyenne perdu 40%.
On va le redire pour les plus jeunes qui nous écoutent. Moins 40% dans la décennie 90.
Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a toujours cette idée que la pierre,
ça monte.
Oui, et puis qu'il y a une matérialité. Bien sûr qu'il y a une matérialité, bien sûr qu'elle ne va pas disparaître. Bien sûr que si vous avez besoin de vous loger et que vous êtes propriétaire de pierre, vous allez pouvoir vous loger dedans. Ça, c'est vrai, il y a une valeur d'usage. À côté de la valeur d'usage qui est indéniable, il y a une valeur financière qui, elle, peut varier dans des proportions.
Une valeur de marché, on peut
le dire. Une valeur de marché qui peut varier dans des proportions dramatiques. C'est ça le sujet.
Bon, question quasi rhétorique pour finir, ouais. Frédéric. Est-ce que les perspectives économiques peuvent réellement impacter La résilience.
Ouais, mais je vais vous répondre à deux vitesses, si vous le permettez. Je ne vais pas. Jusqu'à présent, les perspectives publiées par le FMI sont à court terme globalement positives. En même temps, le FMI sur le moyen terme 2030. 2030, c'est bientôt. C'est bientôt. Les perspectives du FMI sur 2030, elles sont moins enthousiasmantes. On tape sur une croissance globale de 2,8. C'est-à-dire, on tape sur une croissance globale inférieure à ce qu'on considère être le potentiel et le trend historique qui est à 3,8.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, un dernier chiffre issu de cette étude de la Banque de France sur l'endettement immobilier des Français, c'est la valeur des actifs. Ben, la valeur des actifs en France, quasiment sur toutes les tranches de revenus de population, entre 2010 et 2021, cette valeur d'actifs, elle s'est contractée. Alors que dans le même temps, si je regarde en Allemagne, cette valeur des actifs immobiliers, elle a continué à croître sur toutes les tranches de revenus. Et là, on se dit, on risque d'avoir un effet de squeeze entre des taux qui montent, un endettement qui monte et des valeurs de sous-jacents qui sont en train de se contracter. On le voit sur l'immobilier résidentiel, on le voit sur le marché des SCPI.
Oui.
Donc vigilance, je pense que c'est pas par hasard que la Banque de France a publié cette note la semaine dernière.
Pardon Frédéric, dans cette volonté de démocratisation, de déchiffrage de cette émission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de la résidence principale des Français baisse ou a baissé,
Il y a une érosion. C'est très concret. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes un jeune couple, vous avez 25, 30, 35 ans, vous endettez sur X années. Tout va bien jusqu'au moment où le taux de divorce en France est de l'ordre de 50%. 5-10 ans plus tard, vous divorcez, vous avez besoin de réaliser votre actif, vous vendez votre bien immobilier que vous avez acheté en couple, et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez plus d'argent à la banque que la cession du bien ne vous en rapporte. C'est très concret.
C'est le quotidien. On a certains auditeurs qui nous décrivent.
Et c'est ça l'insolvabilité. Donc, vigilance sur ces questions d'endettement autour de l'immobilier. Oui, c'est bien de s'endetter quand on a de la visibilité sur ses flux futurs.
Est-ce que Frédéric, vous qui observez l'économie depuis quelques temps, ça peut venir baisser la cote d'amour de l'immobilier? Les Français, on sait, adorent la pierre. Se lance souvent dans des investissements immobiliers sans forcément réfléchir. Beaucoup de jeunes gens et de moins jeunes gens considèrent que si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale à 30 ans, on a raté sa vie.
Ouais.
Quand on voit la rentabilité de l'immobilier, notamment, je pense, pour les couples parisiens, pour les Parisiens, on se pose quand même vraiment la question. Est-ce que cette réalité économique, elle peut venir enlever cette espèce de passion immobilière qui n'est pas toujours financièrement raisonnable?
Difficilement, parce que vous le dites, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Et il y a dans la tête des Français que la pierre, c'est, entre guillemets, un petit peu sacré. Et donc, je pense qu'avant d'entamer l'enthousiasme des Français pour l'immobilier, il va falloir plusieurs douches. Et on n'est qu'au début. Et je pense que le marché va continuer à bénéficier de cet enthousiasme, de cet engouement des particuliers pour la pierre.
On est au début de la douche, vous nous dites qu'il reste un peu d'eau chaude dans le...
il reste un peu d'eau chaude, mais à mon avis aussi de l'eau froide.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, fondateur de Deep Darsana, avec nous sur l'endettement immobilier des ménages. Est-ce que la cote d'alerte est passée ou au contraire, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul? Voilà, on est endetté immobilièrement, mais est-ce que c'est si grave? Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business et l'application BFM Business. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, de cet endettement des Français... 1 400 milliards, si je ne dis pas de bêtises.